Charles Nodier, le bibliomane. Vous avez tous connu ce bon Théodore, sur la tombe duquel je viens jeter des fleurs en priant le ciel que la terre lui soit légère. Ces deux lambeaux de phrases, qui sont aussi de votre connaissance, vous annoncent assez que je me propose de lui consacrer quelques pages de notices nécrologiques ou d'oraisons funèbres. Il y a 20 ans que Théodore s'était retiré du monde pour travailler ou pour ne rien faire. Lequel des deux, c'était un grand secret. Il songeait, et l'on ne savait à quoi il songeait. Il passait sa vie au milieu des livres, et ne s'occupait que de livres, ce qui avait donné lieu à quelques-uns de penser qu'il composait un livre qui rendrait tous les livres inutiles. Mais il se trompait, évidemment. Théodore avait tiré trop bon parti de ses études pour ignorer que ce livre est fait il y a 300 ans. C'est le 13e chapitre du livre premier de Rabelais. Théodore ne parlait plus, ne riait plus, ne jouait plus, ne mangeait plus, n'allait plus au bal ni à la comédie. Les femmes qu'il avait aimées dans sa jeunesse n'attiraient plus ses regards, ou tout au plus, il ne les regardait qu'aux pieds. Et quand une chaussure élégante de quelque brillante couleur avait frappé son attention, « Hélas, disait-il en tirant un gémissement profond de sa poitrine, voilà bien du Marocain perdu. » Il avait autrefois sacrifié à la mode. Les mémoires du temps nous apprennent qu'il est le premier qui ait noué la cravate à gauche, malgré l'autorité de Gara, qui la nouait à droite, et en dépit du vulgaire, qui s'obstine encore aujourd'hui à la nouer au milieu. Théodore ne se souciait plus de la mode. Il n'a eu pendant 20 ans qu'une dispute avec son tailleur. « Monsieur, lui dit-il un jour, cet habit est le dernier que je reçois de vous, si l'on oublie encore une fois de me faire des poches in quarto. » La politique, dont les chances ridicules ont créé la fortune de tant de sots, ne parvint jamais à le distraire plus d'un moment de ses méditations. Elle le mettait de mauvaise humeur, depuis les folles entreprises de Napoléon dans le Nord qui avaient fait enchérir le cuir de Russie. Il approuva cependant l'intervention française dans les révolutions d'Espagne. « C'est, dit-il, une belle occasion pour apporter de la péninsule des rangs de chevalerie et des calcioneros. » Mais l'armée expéditionnaire ne s'en avisa nullement. Il en fut piqué. Quand on lui parlait trocadéro, il répondait ironiquement « Romancero », ce qui le fit passer pour libéral. La mémorable campagne de M. Bourmont sur les côtes d'Afrique le transporta de joie. « Grâce au ciel, dit-il, en se frottant les mains, nous aurons les Marocains du Levant à bon marché », ce qui le fit passer pour carliste. Il se promenait l'été dernier dans une rue populeuse en collationnant un livre. D'honnêtes citoyens qui sortaient du cabaret d'un pied titubant vinrent le prier, le couteau sur la gorge, au nom de la liberté des opinions, de crier « Vive les Polonais !»« Je ne demande pas mieux, » répondit Théodore, dont la pensée était un cri éternel en faveur du genre humain. « Mais pourrais-je vous demander à quel propos ? Parce que nous déclarons la guerre à la Hollande qui opprime les Polonais, sous prétexte qu'ils n'aiment pas les Jésuites. » Repartit l'ami des Lumières, qui était un rude géographe et un intrépide logicien. « Dieu nous pardonne !» murmura notre ami en croisant piteusement les mains. « Serons-nous donc réduits au prétendu papier de Hollande de M. Montgolfier ?» L'homme, éminemment civilisé, lui cassa la jambe d'un coup de bâton. Théodore passa 3 mois au lit à compulser des catalogues de livres. Disposé, comme il l'a toujours été, à prendre les émotions à l'extrême, cette lecture lui enflamma le sang. Dans sa convalescence, même son sommeil était horriblement agité. Sa femme le réveilla une nuit au milieu des angoisses du cauchemar. « Ah, vous arrivez à propos, lui dit-il en l'embrassant, pour m'empêcher de mourir d'effroi et de douleur. J'étais entouré de monstres qui ne m'auraient point fait de quartier. » « Et quel monstre pouvez-vous redouter, mon bon ami, vous, qui n'avez jamais fait le mal à personne ?»« C'était, si m'en souviens, l'ombre de Purgold, dont les funestes ciseaux mordaient d'un pouce et demi sur les marges de mes aides brochées, tandis que celle de Dieu plongeait impitoyablement dans un acide dévorant mon plus beau lit, volume d'édition Princeps, et l'en retirait tout blanc. Mais j'ai de bonnes raisons de penser qu'ils sont au moins en purgatoire. Sa femme crut qu'il parlait grec, car il savait un peu le grec, à telles enseignes que trois tablettes de sa bibliothèque étaient chargées de livres grecs dont les feuilles n'étaient pas fendues. Aussi ne les ouvrait-il jamais, se contentant de les montrer à ses plus privées connaissances, par le plat et par le dos, mais en indiquant le lieu de l'impression, le nom de l'imprimeur et la date avec une imperturbable assurance. Les simples en concluaient qu'il était sorcier. Je ne le crois pas. Comme il dépérissait à vue d'œil, on appela son médecin, qui était par hasard homme d'esprit et philosophe. Vous le trouverez, si vous pouvez. Le docteur reconnut que la congestion cérébrale était imminente et il fit un beau rapport sur cette maladie dans le Journal des sciences médicales, où elle est désignée sous le nom de monomanie du Marocain ou de typhus des bibliomanes. Mais il n'en fut pas question à l'Académie des sciences, parce qu'elle se trouva en concurrence avec le choléra morbus. On lui conseilla l'exercice, et comme cette idée lui souriait, il se mit en route l'autre jour de bonne heure. J'étais trop peu rassuré pour le quitter d'un pas. Nous nous dirigeâmes du côté des quais, et je m'en réjouis parce que j'imagine que la vue de la rivière le recréerait. Mais il ne détourna pas ses regards du niveau des parapets. Les parapets étaient aussi lisses d'étalage que s'ils avaient été visités dès le matin par les défenseurs de la presse qui ont noyé en février la bibliothèque de l'archevêché. Nous fûmes plus heureux au quai aux fleurs. Il y avait profusion de bouquins, mais quels bouquins ! Tous les ouvrages dont les journaux ont dit du bien depuis un mois et qui tombent infailliblement sans la case à 50 centimes du bureau de rédaction ou du fonds de librairie. Philosophes, historiens, poètes, romanciers, auteurs de tous les genres et de tous les formats, pour qui les annonces les plus pompeuses ne sont que les limbes infranchissables de l'immortalité, et qui passent dédaignés des tablettes du magasin aux margelles de la Seine. L'été profond, d'où ils contemplent en moisissant le terme assuré de leur présomptueux essor. Je dépouillais là les pages satinées de mes in-octavo entre 5 ou 6 de mes amis. Théodore soupira, mais ce n'était pas de voir les œuvres de mon esprit exposées à la pluie, dont les garantit mal l'officieux balandrant de toile cirée. « Qu'est devenu, dit-il, l'âge d'or des bouquinistes en plein vent ? C'est ici pourtant que mon illustre ami Barbier avait colligé tant de trésors qu'il était parvenu à en composer une bibliographie spéciale de quelques milliers d'articles. C'est ici que prolongeaient pendant des heures entières leurs doctes et fructueuses promenades le sage Momerque en allant au palais et le sage Laboudrie en sortant de la métropole. C'est ici que le vénérable Boulard enlevait tous les jours 1 mètre de rareté, toisé à sa canne de mesure, pour lequel ses 6 maisons pléthoriques de volumes n'avaient pas de place en réserve. Oh ! Qui l'a deux fois désiré en pareille occasion le modeste Angulus d'Horace ou la capsule élastique de ce pavillon de fées qui aurait couvert au besoin l'armée de Xerxès et se portait aussi commodément à la ceinture que la gaine au couteau du grand-père de Jeannot. Maintenant, quelle pitié ! Vous n'y voyez plus que les ineptes rogatons de cette littérature moderne qui ne sera jamais de la littérature ancienne et dont la vie s'évapore à 24 heures comme celle des mouches du fleuve Hypanis. Littérature bien digne en effet de l'encre de charbon et du papier de bouillie que lui livrent à regret quelques typographes honteux, presque aussi sots que leurs livres. Et C'est profaner le nom des livres que de le donner à ces guenilles barbouillées de noir qui n'ont presque pas changé de destinée en quittant la hâte au haillon du chiffonnier. Les quais ne sont désormais que la morgue des célébrités contemporaines. Il soupira encore, et je soupirai aussi, mais ce n'était pas pour la même raison. J'étais pressé de l'entraîner, car son exaltation, qui croissait à chaque pas, semblait le menacer d'un accès mortel. Il fallait que ce fût un jour néfaste, puisque tout contribuait à aigrir sa mélancolie. « Voilà !» dit-il en passant la pompeuse façade de l'advocat, le galop du prêt des lettres abâtardi du XIXe siècle, libraire industrieux et libéral, qui aurait mérité de naître dans un meilleur âge, mais dont l'activité déplorable a cruellement multiplié les livres nouveaux, au préjudice éternel des vieux livres, fauteur impardonnable à jamais de la papeterie de coton, de l'orthographe ignorante, de la vignette maniérée, tuteur fatal de la prose académique et de la poésie à la mode. Comme si la France avait eu de la poésie depuis Ronsard et de la prose depuis Montaigne. Ce palais de bibliopole est le cheval de Troie qui a porté tous les ravisseurs du palladium, la boîte de Pandore, qui a donné passage à tous les maux de la terre. J'aime encore le cannibale, et je ferai un chapitre dans son livre, mais je ne le verrai plus. Voilà, continua-t-il, le magasin aux vertes parois du digne Crozet, le plus aimable de nos jeunes libraires, l'homme de Paris qui distingue le mieux une reliure de Dérôme, l'aîné d'une reliure de Dérôme le jeune, et la dernière espérance de la dernière génération d'amateurs, si elle s'élève encore au milieu de notre barbarie, mais je ne jouirai pas aujourd'hui de son entretien, dans lequel j'apprends toujours quelque chose. Il est en Angleterre, où il dispute, par juste droit de représailles, à nos avides envahisseurs de Soho Square et de Fleet Street, les précieux débris des monuments de notre belle langue, oubliés depuis deux siècles, sur la terre ingrate qui les a produits. Macte animo generoso puer. Voilà, reprit-il en revenant sur ses pas, voilà le pont des arts, dont l'inutile balcon ne supportera jamais, sur son garde-fou ridicule de quelques centimètres de largeur, le noble dépôt de l'infolio triséculaire qui a flatté les yeux de 10 générations de l'aspect de sa couverture en peau de truie et de ses fermoirs de bronze. Passage profondément emblématique à la vérité qui conduit du château à l'institut par un chemin qui n'est pas celui de la science. Je ne sais si je me trompe, mais l'invention de cette espèce de pont devait être pour l'érudit une révélation flagrante de la décadence des bonnes lettres. Voilà, dit toujours Théodore, en passant sur la place du Louvre, la blanche enseigne d'un autre libraire, actif et ingénieux. Elle a longtemps fait palpiter mon cœur, mais je ne l'aperçois plus sans une émotion pénible. Depuis que Teschner s'est avisé de faire réimprimer avec les caractères de Tastu sur un papier éblouissant, et sous un cartonnage coquet, les gothiques merveilles de Jean Bonfond de Paris, de Jean Maréchal de Lyon et de Jean de Chanet d'Avignon, bagatelles introuvables qu'il a multipliées en délicieuses contrefaçons. Le papier d'un blanc neigeux me fait horreur, mon ami, et il n'y a rien que je ne lui préfère, si ce n'est ce qu'il devient quand il a reçu, sous le coup de barre d'un bourreau de pressoir, l'empreinte déplorable des rêveries et des sottises de ce siècle de fer. Théodore soupirait de plus belle, il allait de mal en pis. Nous arrivâmes ainsi dans la rue des Bons Enfants, au riche bazar littéraire des ventes publiques de Sylvestre, local honoré des savants, où se sont succédés en un quart de siècle plus d'inappréciable curiosité que n'en referma jamais la bibliothèque des Ptolémées, qui n'a peut-être pas été brûlé par Omar, quoi qu'en disent nos radoteurs d'historiens. Jamais je l'avais vu étaler tant de splendides volumes. Malheureux ceux qui les vendent, dis-je à Théodore. Ils sont morts, répondit-il. Ou ils en mourront. Mais la salle était vide. On n'y remarquait plus que l'infatigable monsieur Tour, facsimilant avec une patiente exactitude sur des cartes soigneusement préparées les titres des ouvrages qui avaient échappé la veille à son investigation quotidienne. Homme heureux entre tous les hommes, qui possède dans ses cartons, par ordre de matière, l'image fidèle du frontispice de tous les livres connus. C'est en vain pour celui-là que toutes les productions de l'imprimerie périront dans la première et prochaine révolution que les progrès de la perfectibilité nous assurent. Il pourra léguer à l'avenir le catalogue complet de la Bibliothèque universelle. Il y avait certainement un tact admirable de prescience à prévoir de si loin le moment où il serait temps de compiler l'inventaire de la civilisation. Quelques années encore, et l'on n'en parlera plus. Dieu me pardonne, brave Théodore, dit l'honnête monsieur Sylvestre, vous êtes trompé d'un jour. C'était hier la dernière vacation. Les livres que vous voyez sont vendus et attendent les porteurs. Théodore chancela et blêmit. Son front prit la teinte d'un marocain citron un peu usé. Le coup qui le frappa retentit au fond de mon cœur. Ah, voilà qui est bien, dit-il d'un air atterré. Je reconnais mon malheur, accoutumé à cette affreuse nouvelle. Mais encore, à qui appartiennent ces perles, ces diamants, ces richesses fantastiques dont la bibliothèque des Detoux et des Greliers se serait fait gloire? Oh, comme à l'ordinaire, monsieur, répliqua monsieur Sylvestre, ces excellents classiques d'édition originale, ces vieux et parfaits exemplaires autographiés par des érudits célèbres, ces piquantes raretés philologiques dont l'Académie et l'Université n'ont pas entendu parler, revenaient de droit à Sir Richard Hebert. C'est la part du lion anglais, auquel nous cédons de bonne grâce le grec et le latin, que nous ne savons plus. Ces belles collections d'histoire naturelle, ces chefs-d'œuvre de méthode et d'iconographie, sont au prince de... dont les goûts studieux ennoblissent encore par son emploi une noble et immense fortune. Ces mystères du Moyen-Âge, ces moralités phénix dont le Ménèque n'existe nulle part, ces curieux essais dramatiques de nos aïeux vont augmenter la bibliothèque modèle de M. de Solène. Ces facéties anciennes, si sveltes, si élégantes, si mignonnes, si bien conservées, composent le lot de votre aimable et ingénieux ami, M. Aimé Martin. Je n'ai pas besoin de vous dire à qui appartiennent ces maroquins frais et brûlants, à triple filet, à large dentelle, à fastueux compartiments. C'est le Shakespeare de la petite propriété, le Corneille du mélodrame, l'interprète habile et souvent éloquent des passions et des vertus du peuple qui, après les avoir un peu déprises le matin, en a fait le soir en plaite, au poids de l'or, non sans gronder entre ses dents, comme un sanglier blessé à mort et sans tourner sur ses compétiteurs, son œil tragique ombragé de noirs sourcils. Théodore avait cessé d'écouter. Il venait de mettre la main sur un volume d'assez bonne apparence auquel il s'était empressé d'appliquer son elseviriomètre, c'est-à-dire le demi-pied divisé presque à l'infini sur lequel il réglait le prix, hélas, et le mérite intrinsèque de ses livres. Il le rapprocha 10 fois du livre maudit, vérifia 10 fois l'accablant calcul, murmura quelques mots que je n'entendis pas, changea de couleur encore une fois et défaillit dans mes bras. J'eus beaucoup de peine à le conduire au premier fiacre venu. Mes instances pour lui arracher le secret de sa subite douleur furent longtemps inutiles. Il ne parlait pas. Mes paroles ne lui parvenaient pas. Oh, c'est le typhus, pensais-je, et le paroxysme du typhus. Je le pressai dans mes bras, je continuai à l'interroger. Il parut céder à un mouvement d'expansion. « Voyez, en moi, me dit-il, le plus malheureux des hommes, ce volume, c'est le Virgile de 1676, en grand papier, dont je pensais avoir l'exemplaire géant, et il l'emporte sur le bien d'un tiers de ligne de hauteur. Oh, des esprits ennemis ou prévenus pourraient même y trouver la demi-ligne. » Un tiers de ligne, grand Dieu! Je fus foudroyé, je compris que le délire le gagnait. Un tiers de ligne! Répéta-t-il en menaçant le ciel d'un poing furieux, comme Ajax ou Capanée. Je tremblais de tous mes membres. Il tomba peu à peu dans le profond abattement. Le pauvre homme ne vivait plus que pour souffrir. Il reprenait seulement de temps à autre un tiers de ligne en se rongeant les mains. Et je redisais tout bas, un foin des livres et du typhus. Tranquillisez-vous, mon ami, soufflai-je tendrement à son oreille chaque fois que la crise se renouvelait. Un tiers de ligne n'est pas grand-chose dans les affaires les plus délicates de ce monde. Pas grand-chose ? S'écria-t-il, un tiers de ligne au Virgile de 1676. Mais c'est un tiers de ligne qui a augmenté de 100 louis le prix de l'homère de Néry chez M. de Côte. Un tiers de ligne. Oh, compteriez-vous pour rien un tiers de ligne du poinçon qui vous perce le cœur? Sa figure se renversa tout à fait, ses bras se roidirent, ses jambes furent saisies d'une crampe aux ongles de fer. Le typhus gagnait visiblement les extrémités. Je n'aurais pas voulu être obligé d'allonger d'un tiers de ligne le court chemin qui nous séparait de sa maison. Nous arrivâmes enfin. « Un tiers de ligne !» dit-il au portier. « Un tiers de ligne !» dit-il à la cuisinière qui vint ouvrir. « Un tiers de ligne !» dit-il à sa femme en la mouillant de ses pleurs. « Ma perruche s'est envolée !» dit sa petite fille qui pleurait comme lui. « Pourquoi ? Laissait-on la cage ouverte ?» répondit Théodore. « Un tiers de ligne ! Le peuple se soulève dans le midi à la rue du Cadran !» dit la vieille tante qui lisait le journal du soir. « De quoi, diable, se mêle le peuple ?» répondit Théodore. « Un tiers de ligne !»
« Votre ferme de la Beauce a été incendiée, » lui dit son domestique en le couchant. « Il faudra la rebâtir, » répondit Théodore, « si le domaine en vaut la peine. »«
Un tiers de ligne. »«
Pensez-vous que cela soit sérieux ?» me dit la nourrice. « Vous n'avez donc pas lu, ma bonne, le journal des sciences médicales. Qu'attendez-vous d'aller chercher un prêtre ?» Heureusement, le curé entrait au même moment pour venir causer. Suivant l'usage de mille jolies broutilles littéraires et bibliographiques, dont son bréviaire ne l'avait jamais complètement distrait, mais il n'y pensa plus quand il eut tâté le pouls de Théodore.
« Hélas, mon enfant, lui dit-il, la vie de l'homme n'est qu'un passage, et le monde lui-même n'est pas affermi sur des fondements éternels. Il doit finir. » comme tout ce qui a commencé.
« Avez-vous lu sur ce sujet, répondit Théodore, le traité de son origine et de son antiquité ?»«
Oh, j'ai appris ce que j'en sais dans la Genèse, reprit le respectable pasteur, mais j'ai ouï dire qu'un sophiste du siècle dernier, nommé M. de Mirabeau, a fait un livre à ce sujet.
« Sub judicelis est !» interrompit brusquement Théodore. J'ai prouvé dans mes stromates que les deux premières parties du monde étaient de ce triste pédant de Mirabeau et la troisième de l'abbé le Mascrier.
Eh mon Dieu, reprit la vieille tante en soulevant ses lunettes,
qu'est-ce donc qui a fait l'Amérique?
Ce n'est pas de cela qu'il est question, continua l'abbé. Croyez-vous à la Trinité?
Comment Ne croirais-je pas au fameux volume de Trinitate de Servet ? Dit Théodore en se relevant à mi-corps sur son oreiller. Puisque j'en ai vu céder ipsissimis oculis pour la modique somme de 215 francs chez M. de McCarthy, un exemplaire que celui-ci avait payé 700 livres à la vente de la Vallière.
Nous n'y sommes pas, exclama l'apôtre un peu déconcerté. Je vous demande, mon fils, ce que vous pensez de la divinité de Jésus-Christ.
Bien, bien, dit Théodore. Il ne s'agit que de s'entendre. Je soutiendrai, envers et contre tous, que le Tolodos Jésus, ou cet ignorant pasquin de Voltaire, appuisé dans de saintes fables, digne des mille et une nuits, n'est qu'une méchante ineptie rabbinique, indigne de figurer dans la bibliothèque d'un savant. À la bonne heure, soupira le digne ecclésiastique. À moins qu'on en retrouve un jour, continua Théodore, l'exemplaire in carta maxima dont il est question, si j'ai bonne mémoire, dans le fatra inédit de David Clément. Le curé, gémit cette fois fort intelligemment, se leva tout ému de sa chaise et se pencha sur Théodore pour lui faire nettement comprendre, sans embâge et sans équivoque, qu'il était atteint au dernier degré du typhus des bibliomanes, dont il est parlé dans le journal des sciences médicales, et qu'il n'avait plus à s'occuper d'autre chose que de son salut. Théodore ne s'était retranché de sa vie sous cette impertinente négative des incrédules qui est la science des sots. Mais le cher homme avait poussé trop loin dans les livres la vaine étude de la lettre pour perdre le temps de s'attacher l'esprit. En plein état de santé, une doctrine lui aurait donné la fièvre et un dogme le tétanos. Il aurait baissé pavillon en morale théologique devant un Saint-Simonien. Il se retourna vers la muraille. Au longtemps qu'il passa sans parler, nous l'aurions cru mort. Si, en me rapprochant de lui, je ne l'avais entendu sourdement murmurer « Un tiers de ligne !» Dieu de justice et de bonté, mais où me rendrez-vous ce tiers de ligne? Et jusqu'à quel point votre omnipotence peut-elle réparer la bévue irréparable de ce relieur?
Un bibliophile de mes amis arriva un instant après. On lui dit que Théodore était agonisant, qu'il délirait au point de croire que l'abbé Le Mascrier avait fait la troisième partie du monde et que depuis un quart d'heure, il avait perdu la parole.
« Je vais m'en assurer, » répliqua l'amateur. « À quelle faute de pagination reconnaît-on la bonne édition du César Elzévir de 1635 » demanda-t-il à Théodore. « 153 pour 149 ?»« Très bien !» Et du Terence de la même année, 108 pour 104.
Diable, dis-je, les Elzévir jouaient de malheur cette année-là sur le chiffre. Ils ont bien fait de ne pas la prendre pour imprimer leur logarithme.
À merveille, continua l'ami de Théodore. Si j'avais voulu écouter ces gens-ci, je t'aurais cru à un doigt de la mort.
Un tiers de ligne, répondit Théodore, dont la voix s'éteignait par degrés.
« Oh, je connais ton histoire, mais n'est rien auprès de la mienne. Imagine-toi que j'ai manqué, il y a 8 jours, dans une de ces ventes bâtardes et anonymes, dont on n'est averti que par l'affiche de la porte, un bocasse de 1527, aussi magnifique que le tien, avec la reliure en vélin de Venise, les « ah, pointus », des témoins partout, et pas un feuillet renouvelé.
Toutes les facultés de Théodore se concentraient dans une seule pensée.
Es-tu bien sûr au moins que les A étaient pointus comme le fer qui arme la hallebarde d'un lancier? Ben, c'était donc, à n'en pas douter, la Venticentine elle-même. Elle-même?
Nous avions ce jour-là un joli dîner, des femmes charmantes, des huîtres vertes, des gens d'esprit, du vin de champagne. Je suis arrivé 3 minutes après l'adjudication. « Monsieur !» cria Théodore, furieux. « Quand la Vintenshit Sittiné est à vendre, on ne dîne pas !»
Ce dernier effort épuisa le reste de vie qui l'animait encore et que le mouvement de cette conversation avait soutenu comme le soufflet qui joue sur une étincelle expirant. Ses lèvres balbutièrent cependant encore un tiers de ligne, mais ce fut sa dernière parole.
Depuis le moment où nous avions renoncé à l'espoir de le conserver, on avait roulé son lit près de sa bibliothèque, d'où nous descendions un à un chaque volume qui paraissait appelé par ses yeux, en tenant plus longtemps exposé à sa vue ceux que nous jugions les plus propres à la flatter. Il mourut à minuit, entre un du seuil et un pas de loup, les deux mains amoureusement pressées sur un tout venin.
Le lendemain, nous escortâmes son convoi à la tête d'un nombreux concours de maroquiniers éplorés, et nous fîmes sceller sur sa tombe une pierre chargée de l'inscription suivante qu'il avait parodiée pour lui-même de l'épitaphe de Franklin. « S.J. sous sa reliure de bois, un exemplaire in folio de la meilleure édition de l'homme, écrite dans une langue de l'âge d'or que le monde ne comprend plus. C'est aujourd'hui un bouquin gâté, maculé, dépareillé, imparfait du frontispice, piqué des vers et fort endommagé de pourriture. On ose attendre pour lui les honneurs tardifs et inutiles de la réimpression. »